Radical Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission qui s'intitule aussi Radicaux Libres, c'est la page, mais sur quel site? Eh bien sur le site radioalpa.com. Comme on aurait pu vous parler cette semaine d'un mensonge d'État en 2023, quand les opposants aux méga-bassines s'attaquent à celle de Sainte-Soline, l'humoriste d'extrême droite qui échange fellation contre appartement est alors ministre de l'Intérieur. Il mobilise des milliers de gendarmes. Ces gendarmes sont attaqués par des manifestants et répliquent en tirant dans le tas sans rien respecter des règles d'engagement. Des camions qui brûlent permettront de dire « vous voyez, c'était horrible ». Dès le 25 mars, leur attitude est dénoncée. Mais la propagande d'État prend le relais des médias à genoux, laisse dire pique-pendre des manifestants. Darmanin lance l'idée de l'écoterrorisme. Ah ouais, c'est nouveau à l'époque. Les boules de pétanque saisies en amont de la manif permettent de valider l'idée que des manifestants étaient venus tuer du flic. La réalité est tout autre. Le 5 novembre dernier, Mediapart et Libération révèlent des extraits trop nombreux, de caméras piétons portées par les gendarmes. La volonté de tuer, de mutiler, d'éborgner était dans le camp des forces de l'ordre. Les armes de guerre utilisées comme telles étaient du côté des forces de l'ordre. La jouissance de l'exercice de la violence était du côté des forces de l'ordre. Comme, c'est dorénavant trop gros pour être caché, Laurent Nunez, nouveau ministre de l'Intérieur, a demandé une enquête administrative confiée à l'IGGN, Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale, celle qui avait planqué les preuves de ses exactions jusqu'à présent. Bah voyons, jugé parti. Le pire, c'est que la bassine de Sainte-Soline, comme plein d'autres, sont illégales, car l'intérêt public de ces aménagements n'existe pas, comme l'ont souligné les tribunaux, qui les ont déclarés illégaux, ces aménagements. Mais un ordre étant un ordre, quand des gradés disent à leurs sous-fifres gendarmes « Vas-y, tire, mais tire tendu !» Le Robocop légitimé à tabasser tout ce qui bouge de par sa fonction, bah tire tendu. D'abord, il tient à sa carrière, et en plus, s'il peut prendre un peu de plaisir à jouer à GTA en vrai, et si en plus il peut désinguer du gauchiste, du démocrate, du pacifiste, de l'écolo, autant de groupes où le recrutement de gendarmes n'est pas des plus folichons. Non. Eh ben là, le Pandore ne se gêne pas. On peut ajouter qu'en plus, depuis la politique du chiffre du plus petit de nos grands hommes, qui est embastillé depuis la fin octobre, et les recrutements massifs pour faire plaisir au lobby policier du mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de péter de la rep, les recrues des forces de l'ordre ne comptent pas parmi... Alors, comment dire? Je cherche une image. Oui, les nouveaux, que ça soit des flics ou des gendarmes, ne sont pas choisis parmi les lampadaires les mieux éclairés des grands boulevards. Ce serait plutôt le palichon à peine incandescent ou le néon en fin de vie, vous savez, celui qui clignote. Celui qui clignote avant de claquer. Et ce n'est pas un sentiment de ma part, mais un constat officiel, fait notamment par la Cour des comptes dans un rapport de 2023. Dans ce rapport, on peut lire cette hausse des départs. Ah bah oui, parce qu'il y a des démissions aussi. Cette hausse des départs contraint donc les responsables de programme, c'est-à-dire le recrutement des gendarmes, policiers, etc., à dégrader la qualité des recrutements et des formations pour se conformer à l'objectif politique d'un recrutement massif de policiers et de gendarmes. La note structurelle de la Cour des comptes de novembre 2021, oui, il se cite eux-mêmes, révélait déjà que le taux d'admission au concours de gardiens de la paix est passé de 2% en 2014 à 18% en 2020, tandis que les fonctions de gardien de la paix et d'officier avaient, les formations pardon, de gardien de la paix et d'officier avaient été raccourcies. Pour la gendarmerie nationale, le taux d'admission au concours SOG de mars 2023 s'élève à 20%. Donc quand tu passes de 1 sur 50 à 1 sur 5,5 chez les flics et 1 sur 5 chez les gendarmes, c'est sûr que le tri n'est pas le même. Les syndicats de flics s'en plaignent eux-mêmes. Pour les gendarmes, c'est plus difficile à savoir puisqu'ils n'ont pas le droit de se syndiquer en tant que militaires. Eh bien, les syndicats de flics, eux, relaient les quelques articles de presse qui éclairent le sujet. Ouais, c'est pas un truc qui est travaillé très souvent. Comme celui, par exemple, l'article du quotidien La Croix en mars 2021, où un condé syndiqué à Alternative Police, alors c'est affilié à la CFDT, Le Condé en question est formateur et il indique, je cite, on se retrouve avec des recrues qui ont des antécédents de violence conjugale ou de petits larcins. Eh ouais, genre, on n'avait jamais vu ça, mais maintenant, on recrute de la caïra et du tabasseur de meufs. Ah bah ouais, c'est les flics de maintenant. Hein. En juillet 2022, une sénatrice, Les Républicains, interroge le ministre de l'Intérieur de l'époque, à savoir Gérald Darmanin, sur la baisse du niveau. Le ministre répond en mars 2023. Ouais, juillet 2022, mars 2023, c'est sûr, faut pas être pressé. Hein. Il répond, je cite, « Alors que les recrutements de policiers sont en forte hausse ces dernières années, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer apporte une attention toute particulière à la qualité de la sélection des candidats postulants dans les métiers de la police et la formation des nouvelles recrues. » Bon, suivent 50 lignes de blabla du même tonneau. En gros, tout va bien et on fait vraiment le maximum. Dans un autre article du Parisien en décembre 2020, on peut lire à propos du recrutement de la police, et là, en l'occurrence, de ceux qui sont affectés en Île-de-France. Une part des stagiaires ne sait pas s'exprimer clairement, appuie un troisième formateur. Ouais, parce qu'il y en a deux autres qui se sont exprimés auparavant. Donc je répète, une part des stagiaires ne sait pas s'exprimer clairement, ils perdent facilement leurs moyens et deviennent agressifs dans une discussion car ils n'ont pas le langage suffisant pour argumenter. Eh, on vous parlait des lampadaires bien éclairés, ben non, c'est pas à ça qu'on a affaire. Donc voilà le genre d'énergumène à qui les autorités donnent des armes et la possibilité de s'en servir. Voilà le genre d'énergumène qui s'en est donné à cœur joie à Sainte-Soline en 2023. Voilà le genre d'énergumène qui tamponne des motos sur les périphs. Voilà le genre que vous pouvez croiser un jour. Bon courage. À la vue des images et à l'écoute des sons sortis par Mediapart et Libération, le mis en cause, qui, dans sa folle jeunesse, usait de son influence pour obtenir des faveurs sexuelles et qui est maintenant ministre de la Justice, a justement indiqué qu'il fallait laisser travailler la justice. Ah ouais, d'habitude, il est plus prolixe. Le procureur de la République de Rennes, qui doit s'occuper de l'affaire, bah, région militaire oblige, hein, puisqu'on a affaire à des bidasses, quand on parle de gendarmes, n'a pas désigné, lui, de juge d'instruction. Et pourtant, dans son discours d'arrivée en septembre 2024 à Rennes, le procureur de la République disait « Je m'attacherai également à ce que ce parquet œuvre dans le respect de la dignité de chacun, et notamment du plus faible. Quel que soit son statut juridique, être implacable sur la répression des comportements qui minent notre société et menacent la sécurité de nos concitoyens, mais rester attentif aux personnes qui ont pu les commettre. » À sa place, j'aurais envie d'en savoir plus sur ces gendarmes qui tressent... Je vais y arriver. À sa place, donc, j'aurais envie d'en savoir plus sur des gendarmes qui traitent des manifestants de pulapis ou affirment qu'il faut en tuer quelques-uns pour calmer les autres. Eh ben, la suite au prochain épisode. On aurait pu vous parler de Lafarge, le cimentier renvoyé devant le tribunal correctionnel pour financement du terrorisme, parce que pour pas perdre de pognon, bah, fallait absolument continuer à faire tourner une cimenterie en Syrie. Faux départ du procès le 4 novembre, puisqu'une irrégularité de procédure renvoie le début des débats au 18 novembre. On attend le jugement de faits ayant eu lieu entre 2012 et 2014. Mais la personnalité morale Lafarge, comme Nicolas Sarkozy, est bien sûr injusticiable comme les autres. On aurait pu vous parler des difficultés à paraître quand on n'est pas un média d'extrême droite. Alors pour eux, les milliardaires de tous les pays sont unis. Hein. Je rappelle que les pétés de thunes et l'extrême droite, une grande histoire d'amour. L'idée étant toujours de se dire, tant qu'il y a du pognon à se faire, par contre avec les communistes, non, ça va pas marcher. Alors visons plutôt l'extrême droite. Donc les milliardaires de tous les pays sont unis et financent par tous les moyens les médias d'extrême droite. Par exemple, imaginons que je m'appelle France Catholique, un hebdomadaire fondé en 2024 par des militants d'extrême droite catholique, biberonné depuis à la pensée maurrassienne, du royaliste nationaliste, et racheté en 2018 par Bolloré. Aucun problème pour fournir un magazine toutes les semaines, payer des journalistes, des chroniqueurs, les frais, le papier, etc. Non, aucun problème, là, la thune, il y en a. C'est pas le cas pour CQFD. CQFD est un journal concocté à Marseille depuis 2003 qui se présente comme mensuel de critique et d'expérimentation sociale. Autant vous dire que aucun milliardaire d'extrême droite ne s'intéresse à ce genre de choses. Aussi, on vous encourage à vous abonner et aussi à faire un don. Déjà en allant voir à quoi ça ressemble, sur CQFD, c'est le tiré du site journal.org. CQFD-journal.org. L'information, on peut aussi la trouver sur les internets. On vous signale que le réseau Mutus est enrichi il n'y a pas si longtemps d'un site qui concerne la Sarthe et la Mayenne. Ça s'appelle larnapé.info. Ben oui, larnapé. Le truc qui vous tombe dessus de temps en temps, là, qu'on appelle des précipitations. La pluie, quoi, l'arnapé. Oh là 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 là, l'arnapé.info, ça s'écrit comment ce truc-là? Ben elle, on n'a pas mis l'apostrophe, puisque l'apostrophe sur les internets, ça n'existe pas. Donc l-a-r-n-a-p-e-e.info, l-a-r-n-a-p-e-e.info. On peut contribuer si on a quelque chose à dire. L'arnapé.info fait partie du réseau Mutu, que vous pouvez retrouver sur réseaumutu.info, où vous pouvez trouver par exemple le site d'info des Dromois de Ricochet. .cc qui relate un appel pour le 15 novembre pour les 7 ans des Gilets jaunes avec plein d'idées pour foutre le dawa. Mais où vont-ils chercher tout ça? Réseaumutu.info, mais aussi on peut trouver de l'information sur infolibertaire.net. Tout ça au singulier, hein, infolibertaire et puis .net. Ouais, c'est pas .com. Pourquoi pas .com? Parce que com, c'est normalement le commerce. Nous, on s'appelle radioalpa.com. Ah, il y a un petit loupé là. Sinon, vous pouvez aussi aller voir sur portail.basta.media avec un tag bonne nouvelle qui donne du baume au cœur parfois. Donc réseaumutu.info, infolibertaire.net, portail.basta.media, ça change un peu de Google Info. On aurait pu vous parler de la guerre aux pauvres. Depuis le 1er novembre est en place la trêve hivernale qui empêche les autorités d'expulser les locataires qui ne paient pas leur loyer ou pas en entier. Ce fut l'occasion pour les médias de rappeler les méfaits de la loi Casbarian-Berger. Oui, Aurore Berger, celle des crèches. Ah oui, bah chez les libéraux, on exploite aussi les gamins. Ah bah, les minots, les bébés, les vieux, tout est bon. Tout, tant que ça peut s'exploiter. En l'occurrence, l'augmentation des expulsions locatives, le raccourcissement des délais, la priorité donnée aux propriétaires, ce qui est normal dans un monde macroniste, hein, c'est-à-dire libéral, voilà les méfaits de la loi Casbarian-Berger. Dans ce genre de monde, le monde macroniste, le monde des Aurore Berger, le monde des Guillaume Casparian, eh bien les besoins essentiels des humains, comme par exemple se loger, c'est-à-dire être à l'abri pour dormir, hein, eh ben ça passe bien après la possibilité de gagner du pognon, dont on ne dira jamais assez qu'il ne se mange pas. Non, le pognon ne se mange pas, ne se boit pas et ne se respire pas. Rappel salutaire de la précarisation croissante de la majorité des humains au profit d'une minorité d'homo economicus, vouant leur vie à accumuler et à avoir des relations simplement parce qu'elles peuvent leur donner des avantages. Rappel auquel Guillaume Casparian, l'un des homo economicus, auteur de la loi du 23 juillet 2023, du 27 juillet 2023, visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, répond par un tweet sur X. Sur ce tweet, sur X, qu'est-ce qu'il nous dit Guillaume Casparian? Eh bien, il dit « J'assume ce record d'expulsion. La meilleure des préventions, c'est de payer son loyer. Ce n'est pas aux propriétaires ni aux contribuables d'assumer le coût des impayés. On devrait même aller plus loin dans le respect de la propriété privée et la rapidité des expulsions. » Ah, cet homme. Mais qui est Guillaume Casparian? Il est fils d'enseignant, il appartient à la petite bourgeoisie et fait son lycée dans le privé. Oui, il continue aussi dans le privé pour les études supérieures. À l'ESSEC, une école d'économie et de commerce. Alors l'économie est libérale, le commerce aussi. Hein. Depuis 2009, il est diplômé en économie et en commerce. Un formatage au libéralisme qui lui va très bien, comme le montre son tweet d'assumation. Je suis pas sûr du mot assumation. Après ses études, il devient conseiller en stratégie. Autant dire que le but, le sens de son travail, le sens de son emploi, le sens de sa rémunération, c'est de faire gagner le plus possible de pognon à ses clients en oubliant que les ressources humaines sont avant tout des êtres humains. Oh bah s'il faut licencier, hein. Guillaume Casparian fait partie de cette offensive de malhonnêteté intellectuelle qui vise à faire croire que l'État français est trop généreux. L'offensive est à l'œuvre depuis des décennies contre les chômeurs, avec des arguments aussi puissants que « quand on veut, on peut ». Argument souvent asséné par des héritiers et des parvenus, au carnet d'adresses long comme un dimanche de pluie. Le plus célèbre d'entre eux étant le mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de péter de la rep avec sa macronade. Souvenez-vous, répondant à un jeune qui cherchait un emploi, confondu avec du travail dans la conversation, le nanti répondit « Je traverse la rue, je vous en trouve ». Eh ben ouais mon gars, si tu veux, tu peux. L'offensive concerne maintenant toutes les catégories de population. Faire croire à tout le monde que tous les autres profitent de l'État français qui est trop généreux. Ah ben oui, Ah ben oui, parce que c'est pas vous, c'est toujours les autres. Les retraités qui sont dézingués depuis l'an dernier, par exemple. Le budget de l'aveugle du Béarn, vous vous souvenez? Ah ben tout ça, c'est de la faute des nantis de retraités. Il était un fichu de voir ce qui se passait à Bétarame, il a été un fichu aussi d'analyser comment se fait-il que parmi les retraités, un quart se retrouve sous le plafond. Sous le plancher même, on va le dire comme ça, sous le plancher du minimum, c'est-à-dire de ce que gagnent en moyenne les Français, pas le minimum vital, mais il y a une expression que je cherche et que je ne retrouve pas, eh ben je l'utiliserai la prochaine fois. Eh bien, cette année, les militants de l'inhumanité vont encore plus loin, en s'attaquant aux humains qui vivent avec les minima sociaux. Waouh ! C'est-à-dire 600 euros pour un RST, et puis pour ceux qui sont aux ASS, c'est pas beaucoup plus. Ouais, voilà, on va dézinguer ces gens-là. Lundi 3 novembre, le ministre de l'Exploitation des Ressources Humaines, appelé communément le ministre du Travail, était en audition à la Commission des Affaires Sociales du Sénat, pour présenter les options du gouvernement quant au budget de la sécurité sociale. Entre autres mesures, absolument nécessaires pour que les riches ne soient pas impactés par les déficits, il a dit ceci.
Sur la prime de fin d'année, dite communément prime de Noël, effectivement, dans le cadre des approches que j'évoquais sur le budget, la proposition qui est faite, mais là aussi elle mérite débat, et d'ailleurs le débat a commencé, c'est de les recentrer effectivement sur les familles avec des enfants. C'est ce qui explique la capacité que nous avons à honorer cette prime exceptionnelle de fin d'année pour les familles avec des enfants sur un budget qui est effectivement réduit.
Un budget réduit, oui. La priorité n'étant pas l'aide sociale pour la Sécu, mais bien l'optimisation fiscale. Sinon, pourquoi dans les différents budgets de l'État, que ce soit celui de la Sécu ou celui le budget général de l'État français, pourquoi il y aurait autant de niches fiscales? Ça permet bien à des gens de ne pas abonder aux recettes de l'État et aux recettes de la Sécu. Le lendemain, le même, M. Farandou, est invité à la matinale de France Info pour parler du budget de la Sécu. Attention, si vous êtes allergique à la démagogie, vous risquez l'éruption cutanée.
Ce qui doit être compris déjà, c'est l'état des comptes de la sécurité sociale. C'est pour ça qu'on est amené à faire des propositions qui peuvent sembler parfois un peu agressives pour les Français. Je le comprends, je l'entends, mais déjà entendons que la sécurité sociale est en train de diverger. Ouais. C'est un bien commun, la sécurité sociale. Si on n'a pas le courage de s'attaquer à bras-le-corps à son équilibre, ça va déraper. On va arriver à un moment où on sera plus capable de payer les retraites, de payer les remboursements.
Jean-Pierre Farandou, sur la question du déficit et du déficit de la sécurité sociale, je crois que tout le monde est à peu près d'accord. Simplement, vous assumez ce matin le fait de dire il y a cette prime de Noël pour les plus précaires, je répète, ceux qui sont au RSA ou des chômeurs en fin de droit. Quand vous n'avez pas d'enfant, vous ne toucherez plus cette prime de Noël.
Alors, c'est la version initiale du projet de loi de finances, mais là encore, il y a débat. C'est bien exactement ce qu'on dit. S'il y a des réactions, je les ai entendues. Ouais. Moi, je n'ai pas de problème à le remettre en question. Ce que je demanderai à chaque fois, c'est quelle est l'économie qui va avec. Parce que moi, je suis garant des comptes de la sécurité
sociale. Vous êtes ouvert à la possibilité de revenir et de rétablir cette prime de Noël pour ceux qui n'ont pas d'enfant.
Bien sûr, je suis ouvert. Là encore, c'est le jeu parlementaire qu'on a évoqué. Mais je serai attentif à ce qu'on me dise quelle est l'économie qui va avec ou quelle est la recette qui va avec. Je serai le garant de cet équilibre. Ça me paraît fondamental.
Ah oui, ça lui paraît fondamental. Bah oui, parce qu'il est aussi ministre de la solidarité. Alors bah oui, ça c'est fondamental. Eh bien, puisque Jean-Pierre Farandou, dont nous avons brossé le portrait dans la dernière émission, est attaché à l'équilibre entre les recettes et les dépenses, il conviendrait que déjà il vérifie que l'État rembourse bien la dette qu'il a contractée auprès de la Sécurité sociale depuis le début des années 90. Puisque la mise en œuvre des exonérations de cotisations, patronales qui devaient être compensées à 100% depuis la loi Veil de 1994. Une loi qui voulait éviter que la générosité de l'État envers le patronat ne soit payé par les Pékins moyens, à la Sécu. Il s'avère que systématiquement, il reste un reliquat d'un ou deux milliards qui n'est pas compensé par l'État. En 2000, et en l'année 2000, il manquait 2,4 milliards d'euros à la Sécu sur les 15,7 milliards d'exonération. C'est pas mal quand même. En 2010, c'est 2,9 milliards qui manquent sur 29,8 milliards d'exonération. Au fil des années, en plus de 30 ans, le trou de la Sécu s'est creusé de plus de 50 milliards d'euros à cause du non-respect de ses règles par l'État. Donc déjà que le monsieur si près de nos sous regarde la poutre dans l'œil de l'État avant d'aller taxer les plus pauvres. Et puis souvenons-nous aussi que cette prime de Noël n'est pas tombée du ciel et n'est pas le résultat de la générosité soi-disant de l'État. L'excellent magazine Frustration rappelle que cette aide exceptionnelle de 150 euros pour une personne seule, de 120 euros pour un couple, est le résultat de la mobilisation des associations de chômeurs et précaires en 1997-98. Quant au Mans, la petite rotonde était squattée par ces assos qui déboulaient parfois à la CCI pour demander des comptes aux plus riches sous les yeux apeurés des vigiles. Le MEDEF n'était pas très content à l'époque. Ce n'est pas l'État magnanime et généreux qui a lâché du lest comme ça. Si la mesure passe dans le budget de la Sécu, cette année, pour 2026, c'est 205 millions d'économies sur les plus pauvres. Soit 10% du montant non compensé par l'État des exonérations accordées aux employeurs en moyenne depuis 1992. Derrière tout ça, finalement, se cache une haine du pauvre, du mal-né, du nécessiteux. Une haine des possédants relayée par les braves gens. Les braves gens qui n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Tous ces braves gens à demi conscients qu'ils auraient pu dire non parfois, se rebeller, arrêter de faire de la lèche et de manger son chapeau et qui en fait s'en veulent. Et c'est pour ça peut-être que parfois, ils s'en prennent à leurs chiens, leurs enfants, leurs femmes. Ça peut être aussi un homme. Eh bien, tous ces gens-là font payer leur lâcheté à ceux qui, d'après eux, en profitent. Vivent des allocs sans rien faire, pour ne citer qu'une des conneries tellement répandues chez les braves gens. Tous ces braves gens qui s'attaquent aux plus fragiles, aux souffreteux, aux bousillés, aux accidentés et aux accidentés de la vie, comme dirait l'Église catholique, qui auraient tellement d'avantages quand eux doivent payer plein pot, hein ? Bah oui, l'herbe est toujours plus verte dans le champ d'à côté. On entend aussi ça à propos des queues dans les hyper et les supermarchés. Ça va plus vite. Tous ces braves gens servant d'idiots utiles aux libéraux qui leur font croire qu'après une vie entière de labeur et de courbettes, par leur investissement dans un logement, par la thésaurisation de quelques pièces ou lingots d'or, ou de bitcoin, ou d'action Total, ou d'action Michelin et d'autres destructeurs de nos environnements, ils pourront enfin vivre leur vie à l'abri du turbin et du besoin. Et pourtant, la seule protection contre le turbin et le besoin ne peut venir que d'une action collective. Elle ne peut exister que dans l'effet de faire société. La diffusion de la culture bourgeoise depuis 200 ans dans notre pays, et petit à petit sur l'ensemble de la planète, se base sur la philosophie libérale, avec une place hypertrophiée de l'économie. Cette économie a pour vertu l'égoïsme de la sécurité, de la réussite sociale, menant à l'accumulation et à la consommation ostentatoire, l'idée de montrer des signes extérieurs de richesse. Un projet de vie qui manque sincèrement de classe et nous résume à des pauvres types soucieux de briller dans la compétition narcissique. Alors, pauvres types étant un état d'esprit, ça marche aussi pour les femmes et tous les autres genres. Ce modèle ne nous met pas à l'abri. Il nous met à l'abri de rien. Depuis l'aube de l'humanité, nous savons que c'est par la solidarité et l'entraide que les êtres humains ont pu se dépêtrer des risques. On apprend par exemple dimanche 2 novembre dans le billet science de France Info, animé par un certain Bill François, que l'analyse de la dentition d'humain du néolithique montre que les étrangers étaient bien nourris, comme les autres en fait, et que les rites funéraires étaient les mêmes pour ceux qui étaient arrivés plus tard et ceux qui étaient de souche sur place. Comme si ces étrangers avaient été bien accueillis plutôt que vus comme des ennemis. On nous conseille de relire, et moi je vous le conseille aussi, l'entraide de Kropotkine et son actualisation, la nouvelle entraide d'un certain Pablo Servigne, plutôt que de cultiver les valeurs d'un militant de l'humanité comme Kasbarian, ou Berger, ou Farandou. Mais finalement, on a préféré vous parler un petit peu de municipal.
Je serai d'une détermination absolue, et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas Nicolas
que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
Vous vous souvenez que la semaine dernière, on vous a fait un petit peu l'historique de la municipalité et notamment de sa loi de compétences générales 1884. Oh là là, petit teasing, on va en parler, hein. C'est ça mon soupeux. Hein. Et les élections dans tout ça? Eh bien, quand le pays se transforme en Faflande avec l'aide de la Wehrmacht entre 1940 et 1944, il n'est plus question d'élections. Non, l'extrême droite n'aime pas les élections. Alors que ce soit au niveau national, départemental ou communal, donc forcément, le sieur Eugène Chamolle Pol, nommé par le régime de Vichy en 1941, au Mans et démis de ses fonctions en août 1944, n'a pas de rue à son nom, contrairement à son prédécesseur Henri Lefebvre et à plusieurs de ses successeurs comme Robert Collet, Jean-Yves Chapalin et Robert Jarry. Eux ont un boulevard, alors que Jacques Maury, lui, il a une avenue. Le dernier maire mort en date, Jean-Claude Boulard, est distingué par un musée, mais aussi une voie de circulation à Coulaines. À noter qu'aucune femme n'a eu de mandat communal depuis que, c'est possible, c'est-à-dire depuis les élections de 45. Actuellement, les listes municipales doivent obligatoirement comporter une alternance d'hommes et de femmes. Si le premier nom de la liste est un homme, le second doit être une femme, etc. Rien sur les noms genrés pour l'instant. Est-ce une exclusion de fait des élections municipales ? Ce n'est pas à nous de trancher ce matin. Actuellement, le maire s'appelle Stéphane Le Foll. C'est un homme. D'aucuns disent un vrai. Et en 2026, il est temps de renouveler l'Assemblée. Pourquoi ? Parce que les dernières élections datent de 2020. Souvenez-vous, on est en mars 2020. Un virus, le SARS-CoV-2, donne une maladie appelée la Covid-19. Le flip général amène les autorités à confiner la population. Seulement, le premier tour des municipales a lieu le dimanche 15 mars. Alors, le confinement, annoncé le vendredi 13, s'invente pas, d'aucuns disent qu'il y avait un signe, a lieu à partir du mardi 17. Ça aurait pu être dès le samedi 14, attention c'est dangereux, il fallait aller voter. Ensuite, vous vous souvenez, on s'auto-autorise à traîner dans les rues vides pour chercher du manger, faire des activités physiques, promener le chien et applaudir les soignants. La population a peur de manquer de PQ et les prolos, pas souvent mis en avant par les libéraux qui se font passer pour nos représentants, deviennent essentiels en allant vider les poubelles, garnir les rayons des super et des hypermarchés notamment. Parce que je vous rappelle quand même que nous sommes en guerre.
Je serai d'une détermination.
En guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse.
Ah, c'est vraiment un mauvais acteur. Extrait d'une allocution télévisée du mauvais acteur mais vrai banquier le 16 mars 2020. Comme dans toute guerre, donc, les élections ne sont pas la priorité. Et d'ailleurs, un certain Benjamin Netanyahou l'a bien compris. S'il veut éviter d'être jugé pour corruption, il a besoin d'une guerre permanente. Revenons à nos moutons. Non, je ne parle pas des électeurs. Mais je parle des municipales de 2020. Covid-19 oblige, le second tour sera reporté. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque d'habitude, le second tour des municipales a lieu une semaine après le premier. En 2020, il aura lieu 15 semaines plus tard, fin juin. Pour les élections de 2026, une nouveauté. L'envie, pour bon nombre de citoyens, de reprendre une place dans cette démocratie représentative, ersatz de démocratie tout court, où le rôle des Pékins moyens se limite le plus souvent à élire et abandonner son pouvoir d'action aux dits élus pendant 6 ans, 5 ans, 4 ans, la durée du mandat. En 2014, sous le slogan « Pas de programme, pas de candidat, la liste c'est vous », un collectif de Seyans, un village de 1500 habitants de la Drôme, remporte les élections municipales. Il y a toute une littérature sur le sujet, accessible par les internets. En 2020, plus de 350 listes sont mises sur les rails. Sur les rails participatives et citoyennes. Comme nous sommes, c'était le nom de la liste à Montpellier, un Havre citoyen, devinez, c'était au Havre. Et dans plein de communes plus petites ou plus grosses, à Poitiers, la liste citoyenne l'emporte, d'ailleurs, en 2020. Depuis, une SCIC, appelée Fréquence Commune, s'est montée pour aider les listes, un réseau, action commune, met les listes en relation, permet de se nourrir des actions passées et d'éviter les écueils présents. Parce qu'en face, on a des tonnes de professionnels de la politique qui ne veulent pas laisser leur place. Des tonnes de partis qui vont à la chasse aux strapontins. Des tonnes de sachants et d'experts qui veulent encore et encore reléguer les citoyens au rang d'électeurs en leur disant « trop compliqué pour toi ». Alors si le cœur vous en dit, il n'y a plus qu'à, parce que les outils existent. Action commune, là c'est au pluriel pour action et pour commune.org. Fréquence commune, tout au singulier.fr. Et si par exemple l'idée d'une liste participative à la Ferté-Bernat, ça vous intéresse, ou alors à Angers, on verra ça la prochaine fois. C'est mieux comme ça.
Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas Nicolas
que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
Bon, on va être obligé de se quitter, mais avant ça, vous rappelez que si vous allez voir sur Sarthe, www.demosphère.net. Si vous allez voir également sur l'arnapé avec deux E à la fin, .info, vous aurez des informations sur ce qui se passe dans notre beau pays. Et puis pourquoi pas aller voir sur ricochet au pluriel.cc pour savoir quel est cet appel là pour le 15 novembre. En attendant de se retrouver ici sur cette antenne ou ailleurs, peut-être in real life. Ouais, je suis content, j'ai appris cette expression il n'y a pas longtemps. Eh bien, je vous dis tout simplement, allez. Au revoir.